Bonjour et bienvenue dans l'atelier des médias, je m'appelle Steven Jambeau et on est ensemble pendant 20 minutes.
RFI.
En décembre 2018 a été lancée en Côte d'Ivoire la première plateforme de MOOC 100% ivoirienne. Proposer des cours en ligne, en vidéo, ouverts à tous, c'est un des moyens qu'ont trouvé les universités en Côte d'Ivoire pour répondre aux problèmes de surpopulation étudiante et à la vétusté des installations. Reportage de Mélissa Barra à Abidjan, où elle s'est rendue à l'invitation de l'Agence universitaire de la francophonie. Le voyage commence dans un studio d'enregistrement du plus grand campus du pays, l'université Félix Houphouët-Boigny.
Bonjour chers internautes et bienvenue dans le MOOC Communication, Nouveaux Médias et Développement. Les objectifs pédagogiques de ce MOOC se déclinent en trois points, à savoir comprendre le développement et la problématique des communications pour le développement, comprendre l'historique et l'évolution des médias et montrer la contribution des nouveaux médias dans le développement en Côte d'Ivoire.
Moi, c'est Danyogo Nyeré Laetitia. Je suis enseignante à l'université Alassane Ouattara, c'est à Boaké, en Côte d'Ivoire. Lorsqu'on prépare un cours traditionnel, un cours classique, on a ce qu'on appelle la rédaction des syllabus. Après avoir rédigé le syllabus, il faut également concevoir le PowerPoint qui sera projeté. Et on vient en amphi devant les étudiants et on leur fait passer le PowerPoint et au fur et à mesure, on explique. Mais là, étant donné que l'enseignant n'est pas face aux étudiants, donc il doit essayer de se mettre à la place de l'étudiant et de concevoir son cours de sorte à ce que ce qu'il dit, étant donné qu'il n'y a pas la possibilité de rétroactivité ou bien d'interactivité immédiate, que l'étudiant ait le maximum de détails sur ce qu'il veut dire, que l'étudiant puisse être à mesure de comprendre seulement en regardant la vidéo ce que l'enseignant a voulu transmettre comme savoir et donner le maximum d'informations dans un temps record. Donc ça veut dire être concis, puisque la vidéo, c'est un temps donné. C'est, dans notre cas, c'était des vidéos de maximum 1 minute 30. Mais je pense qu'avec les MOOC, les vidéos peuvent aller jusqu'à 5 minutes. Et donc, ce que vous allez dire en 2 heures, 3 heures, si vous devez le résumer en 5 minutes, ce n'est pas évident. Donc, il faut arriver à dire le maximum pour dire que c'est vraiment de la préparation. Donc, moi, je dirais même que c'est plus de travail que lorsque on est dans l'enseignement classique. C'est plus de boulot.
Justement, vous dites que c'est beaucoup de travail, mais c'est aussi l'occasion de faire partager ce savoir au plus grand nombre, à beaucoup plus d'étudiants en Côte d'Ivoire. Vous êtes parmi les premiers enseignants ivoiriens à avoir enregistré des MOOC pour une plateforme en ligne. Comment vous pouvoir suivre ces milliers de potentiels étudiants sur cette plateforme et suivre votre MOOC ?
L'université virtuelle a décidé, pour un temps donné, d'ouvrir ces MOOC-là à tout le monde. Tous les étudiants de la Côte d'Ivoire, et même, j'ai entendu dire que même les personnes qui ne sont pas des étudiants, qui veulent assister ou bien qui veulent s'inscrire à ces cours-là, ils ont la possibilité, dans un temps donné, de pouvoir s'y inscrire et de suivre le MOOC qui les intéresse. Il est en ligne, il est disponible, et d'ailleurs, je profite pour les inviter à le suivre.
La plateforme MOOC est pilotée par l'Université virtuelle de Côte d'Ivoire, l'UVCI. Un des porteurs de ce projet est le professeur Mamadou Merawa, conseiller technique du ministre de l'Enseignement supérieur.
Actuellement, par année, la Côte d'Ivoire aura plus de 100 000 étudiants. L'année prochaine, le ministre dit qu'il y aura peut-être 130 000 bacheliers. Je suis un peu plus précis, d'accord ? Or, la plus grande université de Côte d'Ivoire, on y est. Elle compte combien d'étudiants ? À peu près une cinquantaine, un peu plus de 50 000 étudiants. Ça, c'est la plus grande. Les autres universités, c'est 15 000, c'est 12 000. Alors, si on raisonne comme ça déjà, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que s'il n'y avait pas le numérique, si on n'avait que des cours en présentiel, l'État de Côte d'Ivoire devait construire chaque année l'équivalent, non mais il faut qu'on se comprenne bien, hein, l'équivalent de deux universités Félix Houphouët-Boigny par an. L'équivalent par an, chaque année. S'il n'y avait pas le numérique, nous savons, vous et moi, que ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Il faut savoir que l'UVCI, dans sa conception, moi en tant que conseiller technique du ministre, on avait travaillé sur le décret de création de l'UVCI. D'accord ? Et il y a deux missions pour cette université. Deux missions dans le décret signé le 9 décembre 2015 par le président de la République. La première mission, c'est de venir en appui au développement de numérique dans les autres universités et grandes écoles. C'est important ça. Et c'est important et c'est inédit. Parce qu'on ne voit pas, je ne sais même pas si ça existe dans d'autres pays, hein. C'est inédit. On crée une université virtuelle en disant d'avance qu'il y a deux missions. La première mission, dont tout ce qui est MOOC, ben, seront à la disposition de toutes les autres universités et grandes écoles. Ce n'est pas uniquement pour les étudiants de l'UVCI. Ça peut même aller au-delà de la Côte d'Ivoire d'ailleurs. C'est-à-dire, à la limite, il ne faut pas dissocier complètement ce qui se fera dans le présentiel et ce qui se fera dans le numérique. Pour quelle raison? Parce que même l'UVCI, pour sa deuxième mission, qui est donc de créer des filières propres à l'UVCI, en particulier actuellement, ils ont ciblé le domaine du numérique, ce qui est normal, hein, ce qui est logique, parce qu'il faut créer une masse critique de ressources humaines compétentes plus tard dans ce domaine qui est très demandeur. Donc, les étudiants de l'UVCI sont disséminés dans tout l'étendue du territoire ivoirien. Et lorsqu'il faut faire, par exemple, des évaluations, ils font quoi? On les regroupe. On les regroupe où? Dans les universités qui existent actuellement. Vous savez que c'est l'État qui oriente les étudiants dans différents établissements. Donc, c'est attendu au même titre que les résultats du baccalauréat, ça, hein, les orientations, d'accord? Mais pour tous les étudiants qui sont orientés dans l'université virtuelle Côte d'Ivoire, parmi ces étudiants, certains parents qui ne sont pas informés de la manière dont fonctionne l'Université de Côte d'Ivoire sont inquiets. La première réaction, c'est d'abord l'inquiétude, qui est que je me dis, mais je veux bien que mon étudiant aille à l'Université Félix Houphouët-Boigny ou à Nanga-Vrogoi. Vous dites université virtuelle, mais ça se trouve où? J'accompagne mon enfant où? Non, et votre enfant va rester à la maison. Mais comment il va rester à la maison?
L'université virtuelle de Côte d'Ivoire est en réalité installée à quelques centaines de mètres de là, dans un bâtiment discret du quartier de Cocody. Et ce jour-là, les étudiants sont nombreux à patienter devant les bureaux administratifs.
Je me demandais pourquoi vous faites la queue là.
On est venu pour faire notre inscription, pour continuer nos études, parce qu'on a fait la LE l'an dernier pour ceux qui sont ici. C'est l'État qui nous a orientés ici. Mais on peut dire qu'on s'y plaît bien. Bon, en tout cas, moi, je m'y plais bien.
Vous vous appelez comment?
C'est Congo Rachel.
Et vous avez quel âge?
18 ans.
Quand on vous a dit bon, vous allez étudier à l'université virtuelle de Côte d'Ivoire, vous avez pensé quoi?
Bon, j'avais un peu une idée de l'université parce que j'étais partie au salon de l'orientation. Donc, ils nous avaient un peu expliqué leur modèle d'éducation, comment est-ce qu'ils faisaient les cours et tout. Voilà. Nous faisons les cours en ligne. Nous faisons les cours à partir de nos smartphones, nos ordinateurs, nos tablettes. Voilà, c'est comme ça que notre école fonctionne. Nos cours nous sont envoyés en fichier PDF, voilà, sur la plateforme de l'Université virtuelle de Côte d'Ivoire. Et nous allons chaque lundi pour récupérer nos cours et les étudier. Nous faisons nos devoirs les samedis et les dimanches, suite aux cours que nous recevons les lundis ou mardis.
C'est pas trop difficile de faire ça sans un professeur?
Un peu quand même. C'est un peu compliqué, mais on s'adapte.
Comment on fait quand on a des questions, par exemple?
Il y a des forums. Nous avons des tuteurs à qui on peut s'adresser. Ou en cas de problème vraiment, vraiment compliqué, nous pouvons nous rendre au siège ici. On nous met en groupe de 12 élèves par spécialité avec notre tuteur. Et puis, il y a le délégué aussi. Donc, nous pouvons nous organiser et puis travailler ensemble avec des groupes WhatsApp ou bien des groupes. Des groupes Viber, des groupes. C'est un groupe en fait. Voilà.
Bon, bah, je vais vous laisser payer vos frais d'inscription.
Merci.
Merci.
Merci à vous.
Bonjour, comment tu vas?
Ah, oui, ça va bien.
Ouais, ça se passe bien?
Très bien.
Tu viens d'arriver?
Oui.
Ok, ça va. Collègue, bonjour.
Un responsable pédagogique de l'UVCI nous fait visiter les lieux.
Il y a combien de salles ici?
En gros, ici, il y a trois grandes salles.
Pour recevoir combien d'étudiants?
Environ, maintenant, on va passer à 10 000, hein, environ 10 000 étudiants.
Donc, trois salles pour 10 000 étudiants.
Oui, non, pas pour 10 000 étudiants, parce que nous avons les différentes universités sur lesquelles nous allons nous appuyer. l'université Félix Faubourg, où nos étudiants font les compositions. Dans les autres universités, on va mettre peut-être 5 000, 3 000. Et quand il va rester 500, ils composent ici. Nous, on veut enlever l'esprit, salle des classes, voilà, dans la tête des étudiants.
atelier@rfi.fr
Je suis Chéri Sekero, étudiant en deuxième année de développement d'applications e-service au sein de l'Université virtuelle de Côte d'Ivoire. Je viens de la région de l'Aube-Givoire, précisément à Divo, et j'avais la possibilité de rester à Divo et suivre les cours. Mais j'ai préféré venir ici à Abidjan, être proche de mon université pour avoir plus de débouchés. D'abord, c'est une question d'organisation, puisque c'est une université qui est virtuelle, donc j'ai décidé aussi de faire un planning, c'est-à-dire une organisation parfaite qui va me permettre de suivre les cours. Pour une journée, je suis pratiquement au boulot, si je veux dire. Je suis dans une agence, c'est-à-dire une registre publicitaire où je joue le rôle d'infographiste. Donc, quand il y a des examens, je demande une permission pour venir ici au siège pour composer.
Comment est ton travail à la maison ?
D'abord, à la maison, quand je suis à la maison, c'est d'abord l'école. Car dans mon programme, c'est-à-dire le planning que j'ai effectué les soirs avant de me coucher, je révise au moins 2 cours et ensuite de suite jusqu'à atteindre les 5 cours qu'on me donne chaque début de semaine. Donc je mets pas comme barrière l'UVCI, je vais au-delà de l'UVCI pour me former. C'est-à-dire, je vais encore sur d'autres plateformes de formation à distance.
Comme quoi, par exemple ?
D'abord, j'ai Open Classroom, qui est mon préféré. Et j'ai aussi France Université Numérique, FONMOOC, que j'utilise aussi pour me perfectionner. Si je veux aussi accéder à plusieurs MOOC, il y a une plateforme qu'on appelle Océan Flotte, où je vais, qui ont déjà des liens qui vont directement me rediriger sur d'autres plateformes MOOC.
C'est quoi les types de cours, les matières que tu suis en MOOC ?
Bon, d'abord, il y a plusieurs thématiques, telles que la communication, le marketing, en chimie. Mais vrai que je suis un peu en informatique, mais je révise un peu mes bases. Donc, il y a plusieurs thématiques que je révise encore.
Je suis Monsieur Lee Almami, conseiller du directeur général de l'Université virtuelle et enseignant-chercheur à l'Université virtuelle de Côte d'Ivoire. Il faut savoir que nos étudiants sont sollicités notamment par Africa Web Festival pour un concours de blog. C'est eux qui couvrent en tant que professionnels l'Africa Web Festival. Ils sont sollicités pour développer des applications. Ils sont sollicités pendant les derniers jeux de la francophonie qui sont déroulés en Côte d'Ivoire. Et c'était la première promotion. Le concours de blog, il a été gagné par un étudiant de l'Université virtuelle de Côte d'Ivoire. Mais l'UVCI n'a pas la même renommée que des universités comme Félix Houphouët-Boigny qui existent depuis plusieurs décennies, bien évidemment. Le phénomène qui se produit, c'est que les entreprises qui ont un besoin dans le numérique, qui apprennent que l'UVCI existe, viennent naturellement nous demander si on a des étudiants qui savent développer des applications mobiles, si on a des étudiants qui peuvent couvrir via leur blog certains événements et si on peut les accompagner dans la mise en place de formations à distance, etc., etc. Donc c'est plus celles qui ont un besoin en numérique qui viennent vers nous.
De retour sur le campus de l'université Félix Houphouët-Boigny, j'assiste à un cours d'un autre genre. Ici, les élèves, ce sont des professeurs et des encadrants pédagogiques qui voient rien. Ils suivent une formation pour devenir des professionnels du MOOC.
Comme j'évoquais tout à l'heure, la question de la restructuration des MOOC, donc de leur contenu et de la validité dans le domaine universitaire, il faut absolument qu'ils soient repensés avec les universités.
Alors moi je suis enseignant-chercheur à l'université de Cergy-Pontoise et dans le cadre d'une coopération internationale, dans le cadre d'un contrat de désendettement et de développement, on met en place une formation avec l'opérateur AUF pendant plus d'un an pour former une quinzaine d'ingénieurs technico-pédagogues, donc auront tant une approche technique et une approche pédagogique pour permettre de mettre en place des unités de formation ouverte à distance universitaire pour toutes les universités de Côte d'Ivoire.
Justement, ce mot ingénieur pédagogique, moi ça m'intrigue, je pense que ça peut intriguer d'autres. C'est quoi ?
Un ingénieur pédagogique, c'est une personne qui va avoir la compréhension du système universitaire et qui, de par ses compétences, va être en capacité d'organiser tout un projet pour pouvoir accompagner les enseignants dans leurs compétences disciplinaires, à médiatiser leurs cours et à penser à des nouvelles approches pédagogiques avec le numérique.
Qu'est-ce que vous leur apprenez ? Vous leur apprenez à enseigner de quelle manière à travers les MOOC ?
Alors, il y a deux choses. Première chose, mes actions au travers des MOOC. Première chose, c'est de proposer un état de la recherche au niveau international, parce que je suis d'abord chercheur, pour ensuite leur dire, si vous voulez tester un modèle pédagogique des MOOC, voici ce que la recherche évoque comme modèle pédagogique. À partir de là, on produit, on construit avec des outils numériques, de la vidéo, des questionnaires, des traitements de texte, de la médiatisation de cours, pour ensuite tester avec des vrais étudiants comment ces étudiants s'approprient ce dispositif. Et après avoir testé, on va devoir évaluer, modifier, pour avoir un dispositif le plus adapté possible.
Donc vous apprenez une méthode. Alors, en général, on reproche, là, ces dernières années, on a reproché au MOOC de ne pas attirer suffisamment le public. Les gens ne le suivent pas jusqu'au bout, ils ne sont pas particulièrement engagés dans les MOOC. Qu'est-ce que vous leur apprenez pour que les étudiants aient envie de suivre ce MOOC?
Alors, il y a trois choses. Première chose, les MOOC, il faut savoir à quoi on s'en sert. Est-ce qu'on s'en sert comme étant un outil de communication? Et donc, le fait que les gens n'aillent pas au bout n'est pas un problème en soi. Est-ce qu'on s'en sert pour un outil de vulgarisation de nos contenus et donc de travail à une meilleure appréhension de ce que peut être un sujet? Là, ça veut dire que le public cible doit être excessivement défini. Les résultats de la recherche montrent que, première chose, les MOOC qui dépassent 6 semaines, aucun intérêt. Montre aussi que globalement, les 10% qui vont jusqu'au bout, c'était déjà des gens qui avaient les compétences avant et qui voulaient juste se mettre à jour. Donc à partir de là où on considère que le public cible est celui-ci, alors on travaille à cette démarche-là. Si on veut faire un MOOC à tous les vents, ça veut dire que globalement, il faut qu'on se restructure toute la partie sémantique, toute la partie du langage, pour qu'on le vulgarise. L'idéologie en 2010 des MOOC du petit indien qui a 10 ans et qui est incapable de faire les problèmes du MIT, ce n'était qu'un faux langage. Hein. La réalité, ce qui est intéressant dans les MOOC, c'est pour moi, donc, quand je vous disais dans les trois choses, deuxième chose, c'est vraiment que ça permet d'avoir une validation et une structuration de ressources académiques structurées, propres, mis à disposition de tous. C'est-à-dire que c'est pas un contrependant de Wikipédia ou d'autres, c'est tout simplement être en capacité de proposer au plus grand nombre des ressources académiques de très belles, voire d'excellentes factures. Et enfin, la troisième chose, le MOOC en tant que tel, ce qui est intéressant dans sa démarche, c'est que ça questionne comment on travaille aujourd'hui dans les universités. Et c'est aussi cette démarche-là, moi, qui m'intéresse.
Sur le campus, à Cocody, je vais à la rencontre d'étudiants en droit. Ils sont membres de la FESI, le principal syndicat étudiant de Côte d'Ivoire.
Nous demandons une seule chose, l'amélioration de nos conditions d'études. Car l'étudiant, c'est la crème passante de demain. L'étudiant, c'est l'élite de demain. L'étudiant, c'est celui qui va prendre les décisions de demain. L'étudiant, c'est le futur président de la République de demain. L'étudiant, c'est le futur gestionnaire des différentes institutions de la République de Côte d'Ivoire. Alors, nous demandons qu'une seule chose, l'amélioration de nos conditions d'études.
Il fait chaud dans les amphithéâtres. Les salles d'été ne sont pas équipées. Une salle de TD, un TD qui doit composer au minimum 25 ou 30 étudiants, on constate qu'il y en a 150 sur les listes. Et puis, il n'y a pas de chaises. Bon, on fait les TD comment? La réhabilitation de l'université Félix-Fauboigny a été estimée à je ne sais combien de milliards.
100 milliards.
100 milliards. Mais sur le terrain,
400 milliards même.
Nous sommes obligés de quitter à la maison avec des marteaux et des pointes pour venir pointer les chaises en amphi. Pour pouvoir s'asseoir pour faire cours. Nous sommes obligés de prendre des planches pour mettre sur des briques pour s'asseoir pour faire cours. Le professeur, il arrive, il voit qu'il fait chaud. Les conditions ne sont pas adéquates.
Est-ce que certains d'entre vous ont envisagé la possibilité de se former à distance, en ligne, avec votre ordinateur, de ne pas être obligé de venir dans des salles de cours qui sont bondées, vous n'entendez rien, vous n'avez pas droit au TD, etc. Est-ce que c'est quelque chose auquel vous avez déjà pensé?
Ah, mais à ce niveau-là, il faut dire, c'est vrai, c'est très bien pensé, les cours à ligne. Mais les cours à ligne, nous les faisons comment? Nous les faisons comment? Il n'y a pas de connexion Internet, nous n'avons pas d'ordinateur. Ça, ce sont des choses que l'État doit penser. On nous fait croire que le PIB de l'État de Côte d'Ivoire, nous sommes à une croissance de 2 chiffres. Mais nous ne ressentons pas cela. Alors, nous sommes d'avis avec vous. Les cours en ligne, mais nous faisons ces cours en ligne comment? Nous n'avons pas d'ordinateur. La connexion n'existe pas sur l'espace universitaire.
Tu viens, ils ont affiché Wi-Fi Université Félix-Fauboigny. Mais quand tu cliques dessus, tu vois que rien ne passe. Rien, même simplement Google. Tu tapes Google même, on te dit ta connexion, c'est un gros merdier. c'est du n'importe quoi. C'est du n'importe quoi. Faut qu'on soit concret.
Je suis le professeur Abou Karamoko, professeur titulaire de philosophie et président de l'université Félix Faboyé. Moi, je suis favorable même au tout numérique. Et on va vers ça. Mais devant quand les étudiants, les Ivoiriens, ils vont comprendre l'importance et la positivité justement de l'université virtuelle, ils seront nombreux maintenant à demander à aller là-bas. Donc, plus de MOOC, moins d'enseignants à recruter, et ça fait moins de salaires à payer, et moins d'heures complémentaires. Voilà. Donc, c'est une très bonne chose, hein, ça. Mais c'est parce que les gens ne comprennent pas encore suffisamment l'intérêt du numérique.
Monsieur le président de l'université, on a eu l'occasion d'aller à la rencontre des étudiants de cette fac. Ils nous disent, nous, on aimerait bien pouvoir suivre des cours en ligne, mais le problème, c'est que dans notre université, on n'a pas Internet, on n'a pas d'ordinateur. C'est très difficile de pouvoir accéder à ces ressources comme ça. On a visité également l'espace numérique qui était quand même assez vide et parce qu'on nous disait, ben non, il n'y a pas de Wi-Fi, il n'y a pas d'Internet. Vous leur répondez quoi à ces étudiants ?
Ça, c'est une réalité. C'est une réalité, mais il faut aussi entrer un peu dans l'histoire pour comprendre. Parce que d'abord, nos États n'ont pas les moyens dont on a besoin. Donc, mais quand, après la crise, il y a eu la crise post-électorale. Si vous étiez venu ici, vous allez vous trouver cette université complètement détruite. Mais il fallait donc, comme on ne peut pas la supprimer de la carte, il fallait donc la faire renaître. Cet argent qu'on a pris pour remettre l'université en état, on aurait pu prendre cet argent-là pour leur donner tout ce dont ils ont besoin par rapport au numérique, par rapport à... Mais malgré tout, l'État est en train de remédier à ces difficultés. Mais je vous dis, dans le premier trimestre, peut-être même, oui, au premier trimestre de l'année 2019, ce sera chose réglée. Et, en tout cas, pour ce qui concerne l'université Félix Faboyé.
Ok, je vous reçois bien. Donc, vous pouvez commencer à enregistrer. Allez-y.
Moi, c'est Dr Kwasi Seka Simplice, donc enseignant-chercheur à l'université Jean-Laure Nyongédé de Daloa. Nous avons proposé un MOOC intitulé « Cristallochimie, le cristal à l'état microscopique ».
Moi, j'ai une question pour vous. Tout à l'heure, nous étions avec des étudiants de cette université, de l'université Houphouët-Boigny, qui est publique. Ils parlent de manque de moyens pour pouvoir suivre des cours en ligne. Ils disent « Nous, on aimerait bien en suivre, mais on n'a pas d'ordinateur ». On n'a pas de connexion Internet, on essaie de se connecter au Wi-Fi de l'université, c'est impossible. Enfin, on veut bien les suivre, mais il faut quand même d'abord nous donner les infrastructures pour pouvoir les suivre sans devoir débourser de l'argent dans un ordinateur ou un abonnement Internet.
À ce niveau, chacun doit jouer sa part. Nous, en tant qu'enseignants, nous avons notre part. Nous savons qu'aujourd'hui, on ne peut pas se mettre en marge de l'évolution des choses. Il faut les nouvelles technologies, ils s'imposent à nous. Et nous devons évidemment mettre cela dans notre manière de faire les cours. Notre part, c'est ce qu'on essaie de faire. Or, en tant qu'enseignant, on ne sait pas véritablement les difficultés qu'ils rencontrent, même si par moments on entend des choses. Je pense que ça arrive bien peut-être à nos autorités d'être beaucoup plus regardants sur ce côté, parce qu'ils ne peuvent pas, d'un côté, nous envoyer vers le numérique, encourager cela, et d'un autre côté, ne pas favoriser l'accès aux étudiants pour qui ces cours-là sont destinés. Donc, voilà ce que je peux dire.
Il faut une cohérence.
Il faut une cohérence, absolument.
Accélérer sur le numérique est une évidence pour les universités ivoiriennes. Mais vous l'aurez compris, elles se heurtent à un manque de moyens et d'infrastructures. Il faut également que les étudiants soient mieux accompagnés et puissent facilement accéder à Internet. D'ici 2 ans, 2 nouveaux campus doivent sortir de terre, à San Pedro et à Bondoukou. Preuve que le salut des universités ivoiriennes ne sera pas seulement une histoire de serveurs informatiques, mais aussi de salles de cours.
L'université ivoirienne mise sur les MOOC pour se relever, c'est un reportage signé Mélissa Barra. Il est en version longue sur notre podcast. On remercie l'Agence universitaire de la francophonie qui a rendu possible sa réalisation. Et pour découvrir le MOOC ivoirien, tapez UVCI dans votre moteur de recherche préféré. C'est bientôt la fin de cette émission, l'heure de Mondoblog Audio. On part au Tchad, où la blogueuse Sandrine Nagertiga s'intéressait dans un de ses billets au futur des universités en Afrique.
À l'heure où l'Afrique voit l'arrivée massive de jeunes étudiants informés, les MOOC, donc formation en ligne ouverte, remportent un franc succès puisqu'ils permettent de briser les barrières en termes d'accès à la connaissance et au savoir-faire. Ainsi, cours en ligne diversifiés, visioconférences, diplômes reconnus en ligne sont les éléments qui volent au secours de l'éducation et de la formation dans plusieurs pays d'Afrique. Mais l'accès à Internet reste inégal sur le continent. Au Mali et en Côte d'Ivoire par exemple, les universités ne parviennent à satisfaire que 10% de leurs besoins d'accès à Internet. Il faut donc réussir à négocier avec les différents opérateurs pour faire baisser les coûts d'accès au réseau dans la grande majorité des pays concernés. L'autre challenge pour les structures qui promeuvent les MOOC, c'est de ne pas calquer ce qui se fait ailleurs, mais d'adapter les cours en fonction du contexte et des besoins du continent. Le continent africain doit prouver aux autres qu'il est capable de produire un contenu qui soit à la fois un contenu de qualité et, surtout, un contenu adapté aux besoins des jeunes Africains. C'est à ces conditions que l'Afrique pourra enfin espérer s'offrir une place de référence dans la course au MOOC. Dernier point important, la gratuité. Elle est essentielle. De nombreux jeunes sont confrontés à des difficultés pour financer leurs études. Et la non-gratuité serait un frein énorme au succès des MOOC. Il faut donc penser à un modèle économique compatible au développement des cours en ligne sur le continent africain. Au final, une chose est sûre, c'est que l'Université du Futur en Afrique est déjà en route.
L'Université du Futur en Afrique, un défi à relever grâce au e-cours. C'est un article de Sandrine Nagertiga à retrouver en intégralité sur son blog Parlons Talents. Et on vous invite à vous rendre sur mondoblog.org pour réécouter tous les Mondoblog audio diffusés à ce jour. C'est la fin de cette émission qui a été préparée avec Camille Deloche, Camille Sarrazin et Léo Caravagna, à la réalisation Simon De Creuse, au micro Steven Jambeau. J'aurai le plaisir de vous retrouver la semaine prochaine, même jour, même heure à la radio. On parlera du lancement d'un nouveau média, Guiti News, qui se dit collectif et collaboratif et qui sera porté par des journalistes réfugiés en France et des journalistes français. D'ici là, et si ce n'est pas déjà fait, n'oubliez pas de vous abonner au podcast de l'Atelier des médias.